Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
On s'informe avec vous, Walid Selman, bonsoir.
Bonsoir Hakim, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition, entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue libanais. Les dernières agressions contre le Liban évoquées. Nordine Djoudi, inhumé au cimetière d'El Alia, c'est un moujahad et une personnalité marquante de la diplomatie algérienne qui nous a quitté. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses sincères condoléances. Déplacement du ministre délégué auprès du ministre de la Défense à Tebessa, le général d'armée Saïd Chengriha inspecte les détachements de l'ANP ayant mené cette opération qualitative, s'étant soldée par l'élimination de 7 terroristes. L'hécatombe qui se poursuit sur nos routes, 5 morts et 38 blessés dans un accident de la route Amsila. 16e jour de l'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient, les frappes se poursuivent de part et d'autre. L'Iran accuse l'entité sioniste d'être les dernières attaques contre les pays du Golfe, le but étant l'enlisement. Le Maroc demeure l'un des plus grands producteurs et exportateurs de stupéfiants au monde, selon des rapports internationaux. Le Marzen ayant fait de cette activité criminelle un véritable secteur économique parallèle. Journée internationale des consommateurs, ce 15 mars, préserver la santé, droit du consommateur algérien, c'est la priorité des autorités. Et puis sport, riche page sportive avec du football notamment. L'USMA d'Alger s'incline à Lubumbashi en RDC, battu par l'AS Maniema 2-1 pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Et puis Khaled Ben Yahia est le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec son homologue libanais. Les deux présidents ont évoqué notamment les dernières agressions contre le Liban. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a assuré Joseph Aoun du soutien de l'Algérie et de sa disponibilité à être aux côtés du Liban frère, souhaitant une fin rapide à cette crise. Nous vous disions titre, c'est un moudjahad et une personnalité marquante de la diplomatie algérienne qui nous a quittés. Décès du moudjahad Nordine Djoudi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances et a fait part de ses sentiments de compassion à la famille du défunt décédé hier à l'âge de 92 ans. Dans son message de condoléances, le chef de l'État a vanté les mérites du défunt, ce diplomate pionnier qui a marqué, je cite, de son empreinte singulière tous les postes qu'il a brillamment occupés au ministère des Affaires étrangères, ainsi que ses passages notables dans divers fora et organisations extérieures, a écrit Abdelmajid Tebboune. Le président de la République rappellera un fait marquant dans le parcours du défunt Moudjahid, qui a rejoint les rangs de la révolution au sein des unités stationnées aux frontières, où il a eu l'honneur notamment de former le leader sud-africain Nelson Mandela au maintien des armes, au maniement des armes lors de son séjour dans les camps d'entraînement de l'armée de libération nationale. Nordine Djoudi a été inhumé cet après-midi à El Alia en présence de nombre de hauts responsables et de compagnons d'armes. Smaïn Memouni.
Le défunt Nordine Djoudi était un ancien moudjahed et diplomate engagé, proche de Nelson Mandela, figure emblématique et de la diplomatie africaine. Il a consacré sa vie à la liberté des peuples et au renforcement des liens entre l'Algérie et les pays du continent.
Il était un grand nationaliste. Il a œuvré depuis les années 1953 avec le FLN jusqu'à sa mort. Jusqu'à maintenant, lorsqu'il a pris la présidence de l'Association internationale des Amis de la Révolution, il a toujours combattu le sionisme, il a combattu il était pour la liberté des gens.
Le représentant du FLN à Londres, avant de partir aux États-Unis et de revenir dans les maquis, et où il a été versé dans le commissariat politique comme officier. Le défunt Nordine Djoudi fut un témoin privilégié de toute l'histoire de la libération de l'Afrique.
C'est un homme qui a à son compte beaucoup d'actions, tant au niveau de l'armée de libération nationale, puisqu'il a été l'un des bâtisseurs des relations de la révolution algérienne avec l'Afrique. C'est une partie de notre mémoire qui est partie. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écrits, parce qu'il avait à son actif énormément de choses.
Aujourd'hui, c'est une voix de la liberté et de l'engagement qui s'éteint, mais son exemple et sa mémoire continueront de guider les générations à venir.
Le compte-rendu était signé Smaïl Mimouni, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale à Tebessa, un déplacement du chef d'état-major de l'ANP au lendemain de l'opération qualitative ayant permis l'élimination de 7 terroristes et la récupération d'une importante quantité d'armes et de munitions. Le général d'armée Saïd Chengriha a inspecté les détachements de l'ANP ayant mené cette opération après avoir présenté ses condoléances pour leurs camarades tombés au champ d'honneur. Saïd Chengriha leur a présenté les salutations du président de la République, redoublé efforts pour préserver la sécurité du pays, poursuivre la lutte sans répit contre les résidus du terrorisme. C'est le credo qui doit animer nos troupes. Message du général d'armée Saïd Chingria.
Je vous transmets les salutations et les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, pour les résultats obtenus, qui témoignent de votre courage et de votre dévouement aux directives émises par l'ANP dans la lutte contre le terrorisme. Je vous exhorte à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes avec détermination et fierté. Nous avons vaincu le terrorisme grâce aux enfants de l'Algérie et nous continuerons cette lutte afin de préserver la stabilité et la grandeur de l'Algérie.
18h06 sur les ondes d'Algérie 3, deuxième étape pour le projet de loi organique relative aux partis politiques devant la commission juridique administrative et des libertés du Conseil de la Nation. Le représentant du gouvernement, le ministre de l'Intérieur Saïd, a exposé le texte adopté la semaine dernière pour rappel par la chambre basse du Parlement, la PN. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant le contenu du projet de loi qui se veut déclencheur d'une nouvelle vie politique nationale avec une dynamique plus adaptée à un exercice démocratique inclusif moderne et basée sur la moralisation. Sarah Hafarsas.
Devant la commission juridique du Conseil de la Nation, le ministre de l'Intérieur relève la pertinence du projet de loi dont les objectifs s'axent sur la mise en place d'un cadre juridique et organisationnel pour une vie partisane renouvelée fondée sur le professionnalisme et l'engagement. Saïd Saïd, ministre de l'Intérieur.
Ce nouveau cadre juridique vise à permettre aux partis politiques sérieux de jouer pleinement leur rôle dans la construction de la société, l'attraction des talents et la formation d'élites politiques qualifiées et conscientes, tout en impliquant efficacement les citoyens dans la vie politique.
Le projet de loi est le résultat d'un travail inclusif qui a associé toutes les parties concernées.
Le président de la République tenait à associer toutes les parties prenantes à l'élaboration, à la discussion, à l'étude et à l'enrichissement de ce texte. Pour ce faire, des études approfondies et de vastes consultations ont réuni tous les acteurs politiques, des académiciens et des experts juristes. Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes, aboutissant à la rédaction d'une mouture finale et complète de ce projet de loi organique.
Parmi les axes du projet de loi, le représentant du gouvernement souligne la promotion de la participation féminine et de la jeunesse, le contrôle du financement des partis et la numérisation.
Et l'hécatombe qui se poursuit sur nos routes, 5 morts et 38 blessés dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion depuis Msila, Abdelhamid Al-Aidi, notre correspondant permanent sur place.
5 morts et 38 blessés dans un grave accident de la route survenu vers 1h25 du ce matin sur la RN46 au lieu dit Mardoud dans la commune de Bansrour, impliquant 2 véhicules, un camion et un bus de transport de voyageurs reliant les villes de Wadsouf à Tlemcen. L'accident a provoqué le décès de 5 passagers, dont 2 enfants qui ont été déposés à la morgue de l'hôpital de la ville de Bansrour. Les 38 autres victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers au service des urgences de la même structure hospitalière de la ville. Les éléments de la gendarmerie nationale ont entamé une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame. Demsil Abdelhamid Aidi pour Algérie 3.
Et moins d'une heure nous sépare de la rupture du jeûne, une heure fatidique durant laquelle les accidents de la route connaissent, vous le savez, une courbe ascendante. La prudence et la vigilance restent les maîtres mots. Ce chiffre à retenir, en l'espace d'une semaine seulement, près de 2 tonnes de kif traité en provenance du Maroc ont été saisies, en plus de grandes quantités de cocaïne et de psychotropes. Le verdict prononcé par les organismes internationaux sans équivoque, le Maroc un E pour les réseaux internationaux de trafic de drogue, une menace pour l'Europe, les pays voisins, affirme dans un rapport l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, l'IASTERINI.
Le Maroc figure parmi les plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de résine de cannabis. C'est ce que révèlent plusieurs rapports internationaux relayés par l'agence Press Service. Les côtes espagnoles constituent l'un des principaux points de passage pour l'acheminement de ces stupéfiants vers le continent européen. Les réseaux de trafic liés au Maroc s'appuient sur des circuits logistiques complexes pour acheminer la drogue vers l'Europe, alimentant ainsi d'autres formes de criminalité dont le blanchiment d'argent et le trafic d'armes. Et selon les données des Nations Unies, la culture du cannabis occupe environ 37 000 hectares au Maroc et fait vivre près de 140 000 familles au nord du pays. Ce phénomène a également des répercussions dans la région. Selon le ministère de la Défense nationale, les unités de l'armée nationale populaire ont déjoué plusieurs tentatives d'introduction de tonnes de drogue à travers les frontières ouest. Face à l'ampleur de ce trafic transfrontalier, plusieurs experts appellent au renforcement de la coopération régionale afin de lutter contre cette criminalité organisée qui constitue, selon eux, une menace croissante pour la sécurité et la stabilité dans la région.
Un trafic qui continue de s'élargir, et cela avec le feu vert du Marzen et des hauts responsables du royaume, affirme Mohamed Al-Batoui, opposant marocain contacté par Dina Adouche.
Les grands trafiquants, les grands bénéficiaires sont des hommes politiques très proches de la monarchie marocaine. Ces drogues prennent souvent la destination de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne et la direction de l'Algérie. Un autre type de drogue aujourd'hui est mis en évidence dans ce pays, c'est la cocaïne. Et ça, c'est un jardin privé des grands hommes clés de l'État. Le Maroc ou les Marocains attendent un grand procès de trois grands leaders politiques qui appartiennent tous au parti du roi. Donc, ce trafic de drogue est devenu au Maroc un commerce criminel structurel et surtout systémique parce qu'il touche toutes les sphères de la société marocaine.
En plus d'empoisonner le continent européen, via l'Espagne notamment, c'est l'Afrique du Nord et les régions subsahariennes qui subissent les premiers ce déversement de drogue avec cette connexion avec le terrorisme. Hadj Ma'allem Oumarou, politologue nigérien spécialiste en questions africaines, il en parle à Lina Adouche.
La production de 3000 tonnes par le Maroc, c'est une grande tragédie pour l'Afrique en général. Tout un pays qui produit du cannabis, elle doit attendre aux conséquences. Et les conséquences de la production de cannabis, aujourd'hui on les voit à travers le terrorisme qui est en train de faire les grands jalons sur la zone sahélienne. Le financement du terrorisme, ça provient des grands vendeurs de cannabis. La position du Maroc sur la production du cannabis représente l'équivalent d'un danger pour l'avenir des jeunes Africains. Et en passant vers les grands dealers, on va les introduire dans le trafic des stupéfiants. Et ce qui est malheureux pour la région et ce qui est malheureux pour l'Afrique en général.
16e jour de l'escalade militaire au Golfe et au Moyen-Orient. L'Iran ne voit aucune raison de négocier avec les États-Unis. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères iranien, soulignant que l'attaque américano-sioniste est intervenue alors que des pourparlers étaient en cours. Selon lui, l'Iran n'a jamais demandé un cessez-le-feu. Trump avait pour sa part assuré plus tôt que Téhéran voulait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. En attendant, sur le terrain, l'Iran accuse l'entité sioniste d'être derrière certaines attaques contre les pays du Golfe, faisant porter la responsabilité à Téhéran. Le chef de la diplomatie affirme que l'entité sioniste a développé une copie du drone iranien Shahed 136 baptisé Lucas. Abbas al-Rashi affirme que l'armée iranienne n'a mené aucune attaque contre des zones civiles dans le Golfe arabique et annonce l'ouverture d'une enquête. À ce propos, on écoute le décryptage de l'analyste politique Faisal Jelloul. Il répond aux questions de la Béa Slimani.
Le Mossad israélien pourrait intervenir et semer la zizanie entre l'Iran et les pays arabes, faire croire aux habitants des pays du Golfe que l'Iran ne vise pas uniquement les installations militaires, mais c'est un pays qui vise la population de tel ou tel pays arabe et pousser les États dans cette région à participer entièrement à cette guerre à côté des Américains et des Israéliens. Chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant parce que les Iraniens essayent toujours de dire que les opérations iraniennes ne visent pas les pays du Golfe mais les installations américaines et expriment son intention de ne pas déclencher une guerre avec ces États-là. Est-ce que Israël va réussir son affaire de pousser les États du Golfe à prendre partie entière dans cette guerre à côté des Israéliens? Je ne pense pas. Les États du Golfe ont adopté une prise de position qui consiste à rester loin de la coalition américano-israélienne.
C'était l'analyste politique Faisal Djellouli, répondait aux questions de Rabia Slimani. Retour chez nous, c'est la journée internationale des consommateurs ce 15 mars. Avoir accès à des produits conformes aux normes algériennes de bonne qualité qui préservent la santé des consommateurs, c'est des droits de base pour les consommateurs, des droits que la législation algérienne garantit, donc la loi. Et en attendant, la fièvre acheteuse à l'approche des fêtes de l'Aïd s'empare des familles, les commerces ne désemplissent pas. Si pour beaucoup, c'est les achats de vêtements de l'Aïd, pour d'autres, c'est juste l'occasion de profiter des soldes, mais aussi de l'ouverture des magasins en soirée, nous dit Chemseddin Bouzid.
Les commerçants profitent de la quiétude nocturne du mois sacré, porteur de sa fièvre acheteuse, afin de vendre leurs produits dans les meilleures conditions.
Les gens sont plus détendus, plus zen, ils sont plus aptes pour faire des achats.
Le flux durant le ramadan, il est plus élevé, surtout la dernière quinzaine.
Nous avons remarqué, les gens s'intéressent.
Là, c'est qu'on est plus à l'aise, plus détendu, plus à l'aise.
Un centre commercial qui ne désemplit pas de clients et de visiteurs venus à la recherche de nouvelles acquisitions.
Je viens voir tout ce qui est nouveau. Je sais très bien qu'il y a souvent des promotions.
Oui, ça fait une basket. Donc, j'ai un chauffeur à peu près où il y a des promotions. Il y a des promotions.
Une ambiance donc propice à la vente, propice à l'achat et garantissant des saharats rythmés au son des pas fermes et décidés des acheteurs en quête de qualité et de satisfaction.
Et nous allons voir la dernière page de cette édition. Sport avec nous, Nassima Djaout. Pour l'entamée du football, l'USMA d'Alger s'est incliné à Lubumbashi en RDC, battu par l'AS Maniema de 2-1 pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF, Nassima.
C'est dans des conditions climatiques les plus compliquées que l'USM Alger a perdu son match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF en déplacement face à Maniema de la République démocratique du Congo de 2-1. Des conditions climatiques difficiles, je le disais, la chaleur, des averses, l'humidité. Ajouté à cela, les joueurs de l'USM Alger étaient à jeun. L'USM Alger conserve toutefois toutes ses chances de qualification pour les demi-finales. Le match retour est prévu dimanche 22 mars. Au stade du 5 juillet à partir de 20h, l'USM Alger recevra les Congolais de Maniema. Et je rappelle qu'hier, le Chabab de Blouzed a réussi un bon résultat en Égypte face à Al Masri, un but partout. C'était lors du match aller. Le match retour est prévu samedi 21 mars à 20h. Chabab de Blouzed accueillera Al Masri de Nabil El Kouki au stade Nelson Mandela de Belrim.
Du football toujours, Nassima, Khaled Ben Yahya est le nouvel entraîneur du Moulia d'Alger.
Le technicien tunisien Khaled Ben Yahya signe son retour au Mouloudia d'Alger et ce jusqu'au mois de juin 2027. Khaled Ben Yahya remplace le Sud-Africain Rulani Mokwena qui a démissionné hier. Ben Yahya dirigera les entraînements ce soir en prévision du match du Mouloudia d'Alger à domicile contre l'USM Khanchla prévu mardi prochain. Je rappelle que Khaled Ben Yahya connaît bien le doyen. Il avait dirigé le club la saison écoulée avec qui il a remporté la Supercoupe, le championnat d'Algérie de Ligue 1 et avait atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et du karatédo pour terminer, Célia Wiken-Luisa Aburich remporte l'argent et le bronze lors du tournoi international One Premier League qui se déroule en Italie.
Célia Wiken, dans la catégorie des moins de 50 kg, a remporté la médaille d'argent du tournoi international après sa défaite en finale face à la Vénézuélienne Salazar et Orgelis 6-3, finale disputée ce matin à Rome. La championne algérienne, âgée de 22 ans, est actuellement classée 3e mondiale, s'était imposée en demi-finale face à l'Italienne Legittimo Ludovica 2-1. De son côté, Luisa Aburich, dans la catégorie des moins de 55 kg, a pris la médaille de bronze après sa victoire sur la Russe Sofia Liascalo. C'était en match pour le bronze. Luisa Aburich avait été éliminée par l'Italienne Lalo Viola 5-1 en demi-finale disputée vendredi dernier.
Et c'était là la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Sidali Toubal. Dans quelques instants, la page météo avec Hakim Bey. Très bonne écoute et Sahaf Tourkoum.